C'est une femme qui, dans toutes les circonstances multiples d'une vie heurtée, va toujours chercher la cohérence entre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait.
D'une certaine manière, personne n'est digne d'en parler. Parce que la force de sa présence et surtout la force de son exigence sont telles que je crois qu'elle remplit d'humilité n'importe quel lecteur un peu sensible. C'est pourquoi je crois qu'il serait bon, non pas qu'on l'étudie, mais qu'on vive avec elle.
Prénom.
Simone.
Nom.
Veille, une famille juive. On disait à l'époque israélite tant cette famille cultivait l'intégration à la société française.
Date de naissance.
Le 3 février 1909.
Lieu de naissance.
Paris, mais son pays de prédilection, c'est la Grèce antique.
Études.
Le philosophe Alain, dont elle suit les cours au lycée Henri IV, provoque sa deuxième naissance. Normalienne, agrégée de philosophie.
Mariée.
En aucun cas.
Décédée.
Le 24 août 1943, en Angleterre, dans les rangs de la France libre. Soit une vie de 34 ans seulement, une demi-vie, dont il faut retrancher de surcroît d'innombrables journées de migraine. Enterré dans la partie catholique du cimetière d'Ashford, ne pas en déduire, comme l'ont fait beaucoup d'ecclésiastiques, qu'elle était convertie.
Œuvre principale.
Un seul livre publié de son vivant, en 1934, mais des carnets, des cahiers innombrables, rassemblés de manière posthume par Gustave Thibon, Albert Camus, son père, sa mère, une cohorte de spécialistes, 17 volumes d'œuvres complètes, de la pesanteur et la grâce à l'enracinement, en passant par la condition ouvrière.
France Inter. Intelligence, service, Jean Lebrun.
Tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Dès son enfance, la famille de Simone Veil a pensé qu'elle était exceptionnelle, d'autant qu'elle constituait une paire avec son aîné André, un petit génie, appelé à devenir un des plus grands mathématiciens français. À 7 ans, elle déclamait des tragédies. « Oh, Rome, unique objet de mon ressentiment !» Elle préférait, on l'a dit, la Grèce, la civilisation vaincue, plutôt que celle qui l'avait ensevelie sous sa gloire et sa force. À 10 ans, elle répétait « Je suis rouge ». À 18, elle entrait à l'école normale supérieure. Le directeur la fuyait dans les couloirs parce qu'elle voulait toujours lui faire signer une pétition en faveur de tous les opprimés de la terre. Un beau jour de soleil, au jardin du Luxembourg, Raymond Aron, son ami, promenait sa fille dans un landau et voici que surgit Simone à Shanghai. La troupe tire sur les ouvriers et elle éclate en sanglots. Aron en déduit qu'elle témoigne d'un tempérament religieux, plus précisément chrétien. En effet, elle ignore royalement le judaïsme de ses aïeux. Ce qui frappe aussi, c'est son visage, mangé par les cheveux et les lunettes. Elle a déposé le don de la beauté dès la fin de l'enfance. Davantage, elle a rejeté la beauté. L'écrivain Georges Bataille dresse ce portrait d'elle.
Laide et visiblement sale. Elle avait des vêtements noirs, mal coupés, tachés. Elle avait l'air de ne rien voir devant elle. Souvent, elle bousculait les tables en passant. Son chapeau, ses cheveux courts, raides et mal peignés, lui donnaient des ailes de corbeau de chaque côté du visage. Elle avait un grand nez de juive maigre, à la chair jaunâtre, qui sortait de ses ailes sous des lunettes d'acier. Elle m'était mal à l'aise, elle parlait lentement, avec la sérénité d'un esprit étranger à tout. La maladie, la fatigue, le dénuement ou la mort ne comptaient pour rien à ses yeux. Elle exerçait une fascination tant par sa lucidité que par sa pensée d'halluciné.
Rentrée 1931, il faut imaginer l'arrivée de ce drôle d'oiseau au lycée du Puy-en-Velay. Le froid arrive précocement en Haute-Loire. Mais Simone Veil ne chauffe pas son petit appartement au motif qu'elle veut vivre avec le montant du salaire d'un instituteur débutant. Quand elle accepte de porter un vieux chandail, elle le met souvent à l'envers. Il faut que ses élèves, qu'il aime bien, la rhabillent. L'automne n'est pas fini, qu'elle a déjà participé en chef de file à nombre de manifestations et délégations ouvrières. Et l'hiver, l'administration se pose la question de sa révocation. Valérie Gérard a préfacé beaucoup de livres de Simone Veil. Elle est professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Michelet à Vanves.
Je pense que sa manière d'enseigner était beaucoup plus libre que la mienne et qu'elle faisait un petit peu ce qu'elle voulait, ce qui n'est pas mon cas. Elle s'embarrassait pas tellement du devoir, même du devoir social à l'époque, du professeur de philosophie, vu que elle a fait le scandale en passant son temps à manifester avec les chômeurs, à leur côté en les conduisant à la mairie. Ce qui est en lien avec le fait que l'enseignement pour elle n'était pas seulement un travail, c'était essentiel pour remédier à ce qu'elle considérait comme une cause d'aliénation première dans la société, qui est le fait que toute une partie des gens, les classes populaires, sont exclus du savoir, ne sont pas chez elles, comme elle disait, dans le domaine de la pensée. Et donc elle a passé beaucoup de son temps à enseigner dans les bourses du travail, à vouloir transmettre à la fois les grandes œuvres littéraires ou philosophiques à ceux qui n'y ont pas accès, et à celles qui n'y ont pas accès en temps ordinaire, parce que, comme elle disait, ça avait été privatisé par la bourgeoisie.
Sa manière de militer est très particulière.
Jacques Julliard, auteur du Choc Simone Veil.
D'abord, elle dit pourquoi y a-t-il des salaires de professeur et des salaires d'instituteur. Elle décide qu'elle prendra le salaire d'un instituteur commençant et que tout le reste, elle le versera à la Caisse de solidarité des mineurs de Saint-Étienne, de la Ricamarie, etc. Ça, c'est une première manière. Deuxièmement, alors, elle choque complètement la bourgeoisie du puits. Ses élèves l'adorent, hein, et la protègent toujours. Elle militait donc à la CGT. Bon, il y a la CGT et la CGTU. Elle va au congrès de la CGT et au congrès de la CGTU. Mais elle va au congrès de la CGTU, donc qui est un syndicat communiste à l'époque, essentiellement communiste, et elle fait un grand discours contre le stalinisme. Alors vous voyez comment elle a pu être accueillie au congrès de la CGTU en 1931 ou 32 dans une dénonciation virulente du stalinisme. Et puisque j'en suis là, je signale que peu de temps auparavant, elle a rencontré Trotsky, qui était semi-clandestin en France, après avoir fui l'Union soviétique, et ses parents ont contribué à l'héberger. Et elle tombe sur Trotsky, et littéralement lui tombe dessus, en lui disant « Comment pouvez-vous déclarer que l'Union soviétique est un État prolétarien, alors que c'est un État qui opprime le prolétariat. » Trotsky trouve que cette donzelle est un peu effrontée, et tout de même. Voilà. Et c'est-à-dire qu'au moment où elle milite le plus pour les causes qui lui sont chères, c'est-à-dire la cause ouvrière, en même temps, elle dit qu'il faut aller au bout et chaque fois faire surgir les contradictions majeures qu'il peut y avoir.
Poursuivez. Je note.
C'est des publications du syndicalisme révolutionnaire qu'est tiré le seul livre que Simone Veil ait publié de son vivant en 1934, Réflexion sur les causes de l'oppression sociale. Fidèle à son refus de parvenir, à sa volonté de parler du milieu du peuple et non des lieux de savoir institués, elle fait ensuite des pieds et des mains pour être embauchée en usine. Elle va y travailler une petite dizaine de mois en 1934-1935. En 2019, autre époque, un livre a beaucoup touché les lecteurs. L'auteur en est Joseph Pontus, un ancien élève de classe prépa, lui aussi. Ce sera, hélas, le seul livre publié de son vivant, puisqu'il disparaît ensuite prématurément. Des feuillets d'usine. Des vers libres sur fond d'agroalimentaire breton. Pontus, pour avoir beaucoup lu Simone Veil, n'entendait pas, pour autant, marcher sur ses brisées. Voici ce qu'il nous déclarait.
On a tous les deux choisi un parcours de vie. Elle, c'était l'engagement politique et ouvrier. Moi, c'était l'engagement amoureux. L'engagement amoureux a eu pour conséquence que je me retrouve à l'usine. C'était pas une volonté du tout au départ. Moi, j'ai postulé dans tous les trucs possibles et inimaginables. On m'aurait dit, 6 mois avant, tu vas te retrouver à l'usine, j'aurais dit, mais ça va pas la tête, quoi. Enfin, elle sait dès le départ qu'elle veut se faire embaucher à l'usine. Moi, c'est pas un choix du tout, hein. Quand l'intérim me dit, tu commences le lendemain matin à 6h du mat à l'usine de crevettes à 15 bornes d'ici, Putain, je tombe des nues, quoi. Je dis, mais attendez, je suis travailleur social, éducateur spécialisé pendant 10 ans. Vous pouvez pas me trouver un truc, enfin, genre un peu pépère, quoi, secrétaire, je sais pas où. Non, la crevette à 6h du mat, quoi. Et si t'as jamais bossé à la crevette à 6h du mat, pouah! Des phrases cultes de Lacan, c'est le réel, c'est quand on se cogne. Et je crois qu'à l'usine, c'est la première fois où je me suis vraiment cogné, quoi. Je me suis cogné contre les carcasses, je me suis cogné les murs, je me suis cogné le dos, les bras, je me suis cogné des collègues et des chefs, là pour le coup, au sens figuré, que j'aurais jamais imaginé côtoyer. Et c'est ça le réel, et c'est ce que dit Veil très justement, d'ailleurs dès le début. Elle dit « J'ai le sentiment surtout de m'être échappé d'un monde d'abstraction et de me trouver parmi des hommes réels. » Voilà. Et c'est un endroit où on fait pas semblant. Et t'es pas en représentation. Et c'est ça qu'elle raconte très justement, c'est qu'elle-même n'est pas en représentation. Elle savait où elle allait aller. Enfin, c'était un processus de sa part, c'était un engagement.
Étant en usine, confondu aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Il me serait facile et agréable de me mentir un peu à moi-même, d'oublier tout cela. Il m'aurait été facile de ne pas l'éprouver, si seulement j'avais fait cette expérience comme une sorte de jeu, à la manière d'un explorateur qui va vivre au milieu de peuplades lointaines, mais sans jamais oublier qu'il leur est étranger. Bien au contraire, j'écartais systématiquement tout ce qui pouvait me rappeler que cette expérience était une simple expérience.
La condition ouvrière qu'Albert Camus a édité après la guerre, après la mort de Simone Veil, rejoint un trésor de la littérature prolétaire, le livre d'Upton Sinclair sur les abattoirs de Chicago, le journal d'un manœuvre de Thierry Metz, et puis Joseph Pontus, L'or du pauvre, en somme.
La cadence, c'est le temps qu'on a pour effectuer chaque charge qui nous est impartie à l'usine. Donc, en gros, dans toutes les usines de France et du monde, chaque ouvrier a 1 minute pour faire sa tâche. Sauf qu'au départ, on ne connaît pas les gestes. Donc on met plus de temps, donc c'est le collègue de derrière qui doit rattraper. Et si le collègue de devant ne connaît pas assez son travail, c'est moi qui dois rattraper. Et donc ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Et en même temps, quand le geste devient efficace, on peut faire le truc de manière un peu automatique en 45 ou 50 secondes. Simone Veil était payée à la pièce et au pourcentage de la pièce. C'est-à-dire qu'elle gagnait 0,15% par pièce. Aujourd'hui, en tant qu'intérimaire, heureusement, on est payé à l'heure. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de... C'est une petite avancée. Mais on n'a pas nécessairement la possibilité de refuser de faire des heures supplémentaires. C'est-à-dire que si un chef demande « Est-ce que tu veux faire des heures sup ?» que tu dis non une fois, que tu dis non deux fois, que tu dis non trois fois, il va dire, bah, tu veux pas bosser, tu dégages, quoi. On va trouver quelqu'un. Donc, il m'est arrivé de faire des semaines de, la Simone Veil, comme elle le raconte, de 50, 60 heures, avec une demi-heure de pause par jour de poste à poste. C'est-à-dire que de poste à poste, à l'endroit où on est, je dois mettre 5 minutes pour aller au vestiaire, 2 minutes pour me changer, 3 minutes pour aller manger mon sandwich, 5 minutes pour aller fumer, et puis je dois retourner à mon poste. Au fil du temps, et ce qu'elle raconte aussi un petit peu, c'est essayer de trouver la manière d'en faire le moins possible, de se fatiguer le moins possible, en ayant l'air de montrer au patron que tu travailles vraiment, quoi. Moi, j'avais une petite technique, même si je bossais quand même comme un chien. À l'abattoir ou à la poissonnerie, on a des tenues blanches. On n'a plus les bleus. Les bleus, c'est principalement pour les ouvriers dans la construction. Le blanc, c'est pour montrer la pureté. Et généralement, ce que je faisais au début, c'est que je me frottais avec ma blouse blanche contre les carcasses des vaches pour avoir plein de sang. Pour faire croire au chef que j'avais vraiment bien bossé déjà avant même qu'il arrive, quoi. Parce que le chef, il arrive 2 heures après l'embauche de tout le monde. Et il me dit « Ah, Pontus, la vache, t'as beaucoup poussé. » Et effectivement, j'avais beaucoup poussé. Mais c'était pour m'éviter par avance des emmerdes. Un peu comme quand on cherche à ne pas voir un chef, parce qu'on sait qu'on va avoir des emmerdes de toute façon. Mais au final, qu'on fasse 10 pièces de plus dans une journée ou 10 pièces de moins, qu'est-ce que ça va changer à la face du monde? Je sais pas du tout. C'est la production qui dicte tout. C'est même pas les chefs, c'est même pas les ouvriers. C'est ce concept même de production qui fait que il faut produire coûte que coûte. Tant pis si ça va finir à la poubelle, si ça va finir au rebut, si des livres vont finir au pilon, si des vaches vont finir en croquettes animalières. Il faut produire. Et il faut montrer qu'on travaille.
Produire, mais produire quoi? Des objets dont celui qui les fabrique ne connaît pas la destination, ne perçoit pas nécessairement l'utilité. Parmi les descendants de Simone Veil, il faut compter les décroissants, qu'il a réédite encore. Elle-même, dans les années 30, elle pensait en d'autres termes. Elle ne disait pas, comme Joseph Pontus, « collègue », elle parlait de « camarade ».
Ça se voit tout de suite quand un collègue est en galère. Et il commence à tourner la tête comme ça. Et une petite goutte de sueur là qui machine. Il y a eu un jour où je maîtrisais vraiment mon poste de travail et où j'allais assez vite. Et à un moment, je vais filer un collègue, un intérimaire qui était là de passage. Et tous les gars de l'usine me regardent et me disent « Mais pourquoi tu vas lui filer un coup de main ?» Et là, je les regarde et je leur dis « Bah, vous m'avez toujours aidé. Maintenant que j'ai un petit peu de temps, je peux les aider aussi. » Et là, ils m'ont dit cette phrase absolument à la fois magnifique et terrible. « Oui, mais toi, on sait que tu viens pour bosser. Lui, on sait qu'il vient pour rien foutre. » C'est-à-dire que je crois que c'est à peu près du même ordre d'idée avec Simone Veil. Et je l'ai repéré ensuite de manière un petit peu rapide. Et c'est cette forme de solidarité ouvrière qui n'est pas codifiée, pas expliquée, mais qui se joue dans les attitudes. Et moi-même, qui ne suis pas foncièrement un méchant, il y avait des collègues avec lesquels je n'aimais pas bosser. Et plus ils galéraient, plus je leur en foutais plein la gueule, quoi. Plus je leur envoyais de marchandises pour qu'ils galèrent encore plus. C'est-à-dire que la valeur d'un ouvrier se fait à son endurance au travail. C'est un métier qui est tellement, c'est ce qu'elle raconte aussi très bien, qui est foncièrement individuel, mais qui est complètement collectif aussi. Parce que du travail de l'un dépend l'avancée de la chaîne et l'avancée de tous, et de la production.
La solidarité, pour Simone Veil, elle s'exerce au nom de ce qu'elle appelait les devoirs envers l'être humain. Les droits du travailleur. Certains soirs, quand elle quittait l'usine, qu'elle montait dans le bus, elle se demandait pourquoi on lui laissait encore le droit de rentrer dans la pauvre chambre qu'elle avait louée afin de tenter de se reposer. Elle pensait aux esclaves de la Grèce, dont le sort à tout prendre était moins terrible, puisqu'ils ne vivaient pas dans le même déracinement. Simone Veil rêvait d'un syndicalisme révolutionnaire qui surgirait de la misère aussi beau et fort que la tragédie grecque ou la chanson populaire et dont les héros permettraient la libération des autres. Tout à l'heure, Jacques Julliard évoquait la rencontre avec Trotsky. Elle a lieu à peu près à ce moment-là. Les révolutionnaires soviétiques lui demandent Simone Veil: est-ce qu'ils ont changé quelque chose à la suggestion des ouvriers en nationalisant les usines? Et en Allemagne, parce que la prise du pouvoir par Hitler a déjà eu lieu, pourquoi ont-ils échoué à empêcher l'arrivée des nazis
Quand Simone est enfermée en usine, la firme familiale Wagner a déjà eu le temps de faire de Bayreuth le temple du nazisme.
France Inter. Intelligence. Service.
Donc, Hitler est installé en grande pompe à la chancellerie à Berlin. Reportage traduit en français de la radio nationale allemande.
La foule se dirige vers le Kaiserplatz, à droite. Adolf Hitler est apparu à la fenêtre. Et nous allons essayer de capter quelque chose. Nous nous rendons dans la pièce où se trouve Adolf Hitler. Une minute plus tard, nous sommes maintenant dans la pièce où se trouve le nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler. Écoutez pendant quelques instants la musique et la joie des foules qui défilent sous la fenêtre. Quatre minutes plus tard, nous entrons dans le bureau d'Adolf Hitler. Peigné de lumière, il se tient à la fenêtre et admire le défilé de la SA, de la foule qui l'acclame.
Elle passe l'été 1932 en Allemagne, donc quelques mois avant qu'Hitler accède au pouvoir. Elle y va comme journaliste pour les revues militantes auxquelles elle participe régulièrement. Et elle observe l'état d'esprit des classes populaires dans ce moment très singulier de l'Allemagne. Et ce qui la frappe, c'est à quel point la crise économique que traverse l'Allemagne politise les consciences. C'est-à-dire que la crise est telle, et elle envahit tellement toutes les dimensions de l'existence de chacun et de chacune, que le concept, l'idée de vie privée n'a plus vraiment de sens. Chacun et chacune ne peut avoir rapport à sa propre vie qu'en la rapportant à ses conditions sociales et politiques.
Il n'y a pas un coin de la vie privée qui ne soit à l'abri de la vie politique.
Voilà, c'est ce qu'elle dit quasiment dans ces termes. Et plus personne n'a la moindre perspective d'avenir à titre individuel. C'est-à-dire que pour savoir comment s'en sortir, il faut nécessairement poser la question de la collectivité.
Et son point de vue, il est générationnel, c'est-à-dire qu'elle observe la situation de l'Allemagne à partir des jeunes Allemands qui n'ont jamais connu que la crise depuis leur naissance.
Oui, ce qu'elle dit, c'est que la situation de la jeunesse est frappante parce que la jeunesse est l'âge auquel on est tourné vers l'avenir, on a des projets d'avenir, on est capable de se projeter, et précisément, la crise interdit totalement de se projeter dans l'avenir, à moins justement d'arriver à le faire d'un point de vue politique. Et en même temps, cette crise qui rend nécessaire la pensée politique de la vie humaine, la question étant, dit-elle, de savoir comment se faire une vie humaine dans un monde qui est actuellement inhumain, en même temps, la crise finalement empêche toute initiative, parce qu'elle a tendance aussi à isoler les individus, à les séparer. Ce qui fait qu'au moment même où des collectifs seraient nécessaires pour transformer les conditions qui rendent les vies individuelles impossibles, ces mêmes collectifs sont rendus impossibles par la désolation, l'isolation que produit la crise.
Au moment où les collectifs étaient indispensables, chacun restait isolé dans sa chacunière. Alors autant Simone Veil a bien décrit les Allemands attendant, tétanisés chacun de son côté, le choc du nazisme, autant elle en mesure mal les conséquences. Si elle avait bien voulu considérer vraiment qu'elle était juive, elle aurait été autrement en alerte. Quand Hitler, en 1936, remilitarise la rive gauche du Rhin, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle tire le signal d'alarme. Elle est toujours sur la ligne constamment pacifiste que son vieux maître du lycée Henri IV, le philosophe Alain, avait tiré de son expérience de la Grande Guerre. Valérie Gérard, toujours.
Elle écrit un article qui s'appelle « Réflexion sur la guerre », dans lequel elle explique les raisons de son pacifisme. Et elle dit qu'il ne s'agit pas du tout d'un pacifisme qu'on pourrait dire moral ou éthique, où elle parle de considération sentimentale, de respect pour la vie humaine. C'est un pacifisme qui est lié à une analyse technique et sociale de l'organisation de la guerre, et qui l'a conduit à dire que ce qu'a rendu encore plus sensible l'organisation de la Première Guerre mondiale, par les conditions techniques, par le type d'armement et par le type de chaîne de transmission des ordres, le type de hiérarchie, l'organisation de la guerre finalement produit une oppression à la fois de la hiérarchie et à la fois des outils techniques sur les gens qui font la guerre, sur les soldats. Elle propose de faire ce qu'elle appelle une analyse matérialiste de la guerre, c'est-à-dire étudier ce que produisent matériellement les moyens de la guerre. Et ce que produisent matériellement les moyens de la guerre, c'est nécessairement, dit-elle, de l'oppression.
Mais quel sera le positionnement de Simone Veil en 1936, au moment du déclenchement de la guerre civile en Espagne, quand Hitler et Mussolini vont soutenir Franco? Son pacifisme ne devrait-il pas la tenir à distance de cette guerre civile? Monsieur Lebrun?
En effet, Simone Veil approuve la politique de non-intervention que prône officiellement le gouvernement français de Front Populaire. Néanmoins, elle ne peut supporter de voir une guerre se déclencher de l'autre côté de la frontière sans se porter en première ligne. Et alors, elle rejoint les anarchistes de la colonne Durruti. Enfin, pas longtemps, parce que assez myope, très maladroite, elle met le pied le 11e jour dans une bassine d'huile bouillante qu'elle n'a pas vue à terre. Elle doit rejoindre Barcelone. Ses parents la rapatrient. Sa mère l'a toujours aidée. Elle apportait du charbon à l'appartement du puits. Elle lui servait du filet de bœuf en disant que c'était du moucha. Elle a toujours essayé d'écarter de Simone Veil le calice que celle-ci veut boire. Ce trop court séjour fait réfléchir la philosophe sur les contradictions que peuvent traverser ses camarades anarchistes eux-mêmes.
Le moment est arrivé. Bonaventure Durruti discute avec ses camarades. C'est le moment de trouver l'ennemi et de le combattre coûte que coûte. Tous les camarades de la CNT et de la FAI vont combattre avec une foi ardente pour une humanité exempte d'égoïsme.
Ça me rappelle une belle histoire que m'avaient raconté des vieux copains anarchistes.
Joseph Pontus.
Sur la colonne Durruti. Alors je sais pas si elle est vraie ou pas vraie, mais comme disaient les Italiens, si non è vero, è ben trovato. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Pendant les brigades internationales, il y a plein de, à l'époque des brigades internationales en 36, plein de volontaires qui viennent, anarchistes du monde entier, qui viennent combattre et veulent s'engager dans la brigade Durruti. Et ils veulent apprendre à manier les armes et les fusils. Et la légende dit que Durruti leur filait une pile de bouquins et leur disait, tu lis ça, après tu viens, on discute de ce que t'as lu. Et pour le fusil, on verra après.
Georges Bernanos, qui a choisi comme Simone Veil le camp républicain, recevra d'elle une lettre qu'il trouvera si belle qu'il la gardera dans son portefeuille jusqu'à sa mort. Et pourtant, elle dénonce les exactions des Républicains et aussi de la colonne Durruty.
En Aragon, un petit groupe international de 22 miliciens de tout pays prit, après un léger engagement, un jeune garçon de 15 ans qui combattait comme phalangiste. Aussitôt pris, tout tremblant d'avoir vu tuer ses camarades à ses côtés, il dit qu'on l'avait enrôlé de force. On le fouilla, on trouva sur lui une médaille de la Vierge et une carte de phalangiste. On l'envoya à Durruty, chef de la colonne, qui, après lui avoir exposé pendant une heure les beautés de l'idéal anarchiste, lui donna le choix entre mourir et s'enrôler immédiatement dans les rangs de ceux qui l'avaient fait prisonnier, contre ses camarades de la veille. Durruty donna à l'enfant 24 heures de réflexion. Au bout de 24 heures, l'enfant dit non et fut fusillé. Durruty était pourtant, à certains égards, un homme admirable. La mort de ce petit héros n'a jamais cessé de me peser sur la conscience.
Cette lettre est très belle. Ce qu'elle retient, c'est que même aux côtés de camarades anarchistes qui, dit-elle, en France, détestent la police, l'oppression, les ordres, le sang versé, le meurtre, etc., dans l'atmosphère de la guerre, se mettaient à donner des ordres, à prendre le goût du meurtre. Et elle dit, voilà, l'atmosphère de la guerre efface tous les idéaux, efface tous les principes.
Yo sé que os batís bien, que sois valientes y generosos, pero los compañeros de vuestros pueblos os reclaman. Os necesitan para poder llevar adelante la obra que habéis comenzado. ¿Qué quedará después de la guerra, de los tiros que pegamos? La obra que estáis realizando en vuestros pueblos es más importante que el hecho de matar fascistas. Porque lo que vosotros matáis con esa obra es el sistema burgués. Y lo que seamos capaces de crear en ese sentido será solo lo único que registrará la historia.
Intelligence, service, Jean Lebrun.
Simone Veil, en 1938, n'est pas vraiment émue par la capitulation des démocraties devant Hitler à Munich. La survie des nations, c'est pas ce qui lui importe. Et d'ailleurs, la Tchécoslovaquie, que les démocraties occidentales ont abandonnée, en est-elle seulement une ? Son frère Alain, le mathématicien, restera pacifiste encore plus longtemps qu'elle, refusant même de se plier à la mobilisation en 1939. Simone Veil, elle, accepte enfin de changer de position après qu'Hitler a envahi Prague au printemps 1939. La défaite ensuite la met à la merci des mesures antisémites. Elle est en congé de l'enseignement depuis quelques années, mais la voici maintenant révoquée. Ce n'est pas son sort qui la préoccupe le plus. On aurait aimé d'ailleurs qu'elle le soit davantage de celui des autres juifs de France. C'est le sujet de polémique inépuisable. Passons. Et apprécions l'insolence avec laquelle elle s'adresse en octobre 1941 au commissaire général aux affaires juives, Xavier Vallat.
Monsieur, je dois vous considérer, je suppose, comme étant en quelque sorte mon chef. car bien que je n'ai pas encore bien compris ce qu'on entend aujourd'hui légalement par juif, le gouvernement a fait savoir qu'il voulait que les juifs entrent dans la production et de préférence aillent à la terre. Bien que je ne me considère pas moi-même comme juive, car je ne suis jamais entrée dans une synagogue, j'ai été élevée sans pratique religieuse d'aucune espèce par des parents libres penseurs, je n'ai aucune attirance vers la religion juive, aucune attache avec la tradition juive, et ne suis nourrie depuis ma première enfance que de la tradition hellénique, chrétienne et française. Néanmoins, j'ai obéi. Je suis en ce moment vendangeuse. J'ai coupé les raisins, 8 heures par jour, tous les jours, pendant 4 semaines, au service d'un viticulteur du Gard. Mon patron me fait l'honneur de me dire que je tiens ma place. Il m'a même fait le plus grand éloge qu'un agriculteur puisse faire à une jeune fille venue de la ville, en me disant que je pourrais épouser un paysan. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance sincère que j'éprouve envers le gouvernement pour m'avoir ôté de la catégorie sociale des intellectuels et m'avoir donné la terre et avec elle toute la nature. Car seuls possèdent la nature et la terre ceux à qui elles sont entrées dans le corps par la souffrance quotidienne des membres rompus de fatigue. Vous et les autres dirigeants actuels du pays, vous m'avez donné ce que vous ne possédez pas. Vous m'avez fait aussi le don infiniment précieux de la pauvreté que vous ne possédez pas non plus. J'aurais hésité à vous écrire, sachant votre temps pris par d'innombrables soucis, mais vous ne recevez certainement pas beaucoup de lettres de remerciement de ceux qui se trouvent dans ma situation. Cela vaut donc peut-être pour vous les quelques minutes que vous perdrez à me lire. Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma haute considération. Simone Veil.
Le viticulteur qu'elle évoque dans sa lettre au commissaire général aux affaires juives, c'est Gustave Thibon, paysan philosophe, proche d'ailleurs de la Révolution nationale, à qui elle confiera peu après, comme une bouteille à la mer, les cahiers et les carnets qu'elle continue de rédiger compulsivement, tentant de construire une doctrine alors que l'urgence la rejoint. Thibon en tirera, après la fin de la guerre, un recueil, La pesanteur et la grâce, qui donnera forme à une des lectures possibles de Simone Veil, la lecture catholique. Parmi les textes de cette dernière période, une pièce, Venise sauvée, mérite d'être citée. Simone Veil a compris qu'après Hitler, rien ne repousserait et que la cité dans laquelle s'étaient enracinés les hommes avec leur maison, leur terre, leur passé, leur spiritualité commune, tout serait irrémédiablement détruit.
Chacun fuira sa terre. Quiconque sera trouvé sera oxy. Quiconque surviendra périra par l'épée. Leurs enfants seront oxy devant leurs yeux, leurs maisons pillées et leurs femmes violées. Voici que je susciterai sur eux les étrangers, lesquels ne demanderont point d'argent et qui ne désirent pas avoir d'or. Mais oxyront les petits-enfants de flèches et n'auront pas pitié de ceux qui allaitent, et leur œil n'épargnera pas les enfants. Et cette cité glorieuse entre les royaumes, noble, orgueilleuse, sera comme Sodome et Gomorre.
Quelques années auparavant, au théâtre, Simone Veil avait vu et aimé La guerre de Troie aura-t-elle lieu, de Jean Giraudoux. Et voilà que la guerre de Troie s'est déclenchée, que la puissance de la force nous traverse de part en part. C'est le thème de son texte sur l'Iliade en 1941. Valérie Gérard.
Dans ce texte, l'Iliade ou le poème de la force, qui, je pense, est le plus beau texte de Simone Veil, elle prend prétexte de cette odyssée, de cette épopée, pour réfléchir, sans se heurter à la censure, à la Seconde Guerre mondiale. Elle écrit ce texte à Marseille en 1941, dans les Cahiers du Sud, qui doivent paraître en échappant à la censure. Donc elle ne prend pas position contre la guerre, etc. Mais ce qui l'intéresse dans l'Iliade, c'est qu'il s'agit d'une guerre qui finit par une extermination totale, l'extermination de Troie. Donc il ne s'agit pas seulement des 10 ans de guerre entre la Grèce et Troie, il s'agit du massacre final de Troie. Et donc ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est non seulement de penser ce que fait la force aux gens qui l'emploient, aux gens qui la subissent. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit la pensée. Elle transforme les gens en choses, dit-elle. Et la deuxième chose qui l'intéresse voilà, dans cette épopée, c'est que ça lui permet de penser déjà la guerre de colonisation. Et elle dit ça avec cette clarté, voilà. Ce que fait Hitler à l'Europe, en gros, c'est ce que nous avons fait dans l'Empire. Nous, Français, et d'autres pays européens.
Et l'Odyssée, maintenant. Le sort de la famille Veil est longtemps incertain. Et puis, elle se retrouve à Marseille. Et à la suite d'André, qui ayant trouvé un poste de mathématicien aux États-Unis, a servi de poisson pilote, tous peuvent s'échapper. À New York, Simone est donc saine et sauve. Mais c'est pas ainsi qu'elle entend le salut. Les comités new-yorkais trop mondains de la France libre ne lui conviennent évidemment pas. Elle veut rejoindre Londres, puis s'approcher du feu. C'est ainsi qu'un jour, sa famille l'accompagne sur un quai de Manhattan. Sa mère a vérifié qu'il n'y a pas dans la valise que la Bible et la Bhagavad Gita, mais aussi des chandails et des chaussures de rechange. À Londres, la France libre se demande que faire de cette fille qui déjà ne veut pas comprendre que c'est l'empire colonial qui a donné sa légitimité à De Gaulle, et qui en plus brûle d'être parachutée en France occupée où elle ne passera pas inaperçue. Alors on lui demande d'écrire un rapport sur l'état moral de la France. En réponse, elle rédige un traité de civilisation, l'enracinement. Alors non pas l'enracinement dans la terre qui ne mentirait jamais. Les racines, selon Simone Veil, doivent pousser dans le ciel. Jamais elle n'est allée aussi loin dans la recherche spirituelle que dans ce texte. Mais qu'on ne compte pas sur elle pour se convertir au christianisme. Elle n'a pas envie de rejoindre les catholiques d'habitude qui remplissent les églises. Nous sommes en 1943, au début de 43. Les dirigeants de la France libre, à cette date, sont partis à Alger. Ils n'ont pas accédé à son désir d'aller en première ligne. Elle démissionne de son poste, qui n'en est plus un. Elle refuse toujours de s'alimenter mieux que les Français de la France occupée. Toujours ce souvenir qu'elle avait de son enfance, la légende selon laquelle Alexandre, dans le désert, avait refusé un casque plein d'eau que lui offrait un soldat. « Je ne veux pas vivre autrement que mes troupes. »
Monsieur Lebrun, peut-on penser qu'à cette époque, Simone Veil aurait vu s'avancer la mort et qu'elle y aurait même consenti ?
La tuberculose dont elle est atteinte depuis longtemps la rejoint. Elle est hospitalisée. Maurice Schumann, revenu d'Alger, la trouve à Londres l'été 43, à bout de souffle, au bout de son effort, on pourrait presque dire au bout de sa passion. Parce que pour elle, Dieu a souffert et la souffrance est donc chose divine. Maurice Schumann, porte-parole de la France libre.
Elle avait la volonté éperdue de trouver le lien entre la perfection de Dieu et la souffrance des hommes, c'est-à-dire la justice du monde, ce lien, pensait-elle, ne pouvait lui apparaître que dans un instant d'extrême souffrance, d'extrême sacrifice, et d'extrême sacrifice consenti dans une totale obscurité. Alors le jour où, déjà malade, gravement malade, elle a appris que cette joie, j'ose employer ce mot, cette joie métaphysique lui serait refusée, elle a décidé de mourir. Et elle est morte.
Sylvie Veil, sa nièce.
Schumann s'exprime magnifiquement et a une très très belle voix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi pour être l'organe de la France libre pendant la guerre. J'ai du mal à le suivre dans ce qu'il dit de ces derniers moments de ma tante. Ma tante était un poète. Je suis sûre qu'elle était un poète et que ça a été une de ses forces. Je la vois beaucoup plus comme un poète, personnellement, que comme une sainte. Je trouve que Maurice Schumann transforme sa mort en une sorte presque d'apothéose. Et moi, je vois une petite jeune femme qui a été désolée, qui s'est sentie inutile, qui était esseulée à Londres et qui, oui, s'est laissée mourir, il n'y a aucun doute. Mais je pense que c'est plutôt triste que ce qu'en fait Maurice Schumann. Donc j'ai un peu de mal à suivre dans ce chemin magnifique.
Sept personnes seulement ont assisté à l'enterrement de Simone Veil, parmi elles Maurice Schumann, et aussi la femme de Raymond Aron et la femme d'Henri-Louis Colson qui avaient suivi l'agonie de la philosophe. La famille Veil est revenue des États-Unis, les parents se sont réinstallés dans l'appartement de la rue Auguste Comte, proche du Luxembourg. Il ne restait, après le passage des Allemands, qu'un grand miroir. Un placard recueillit très vite les cahiers et les carnets récupérés chez tous les amis auxquels les avait confiés Simone Veil. Et le père et la mère de Simone Veil, de part et d'autre, d'une grande table de bois, ont consacré tout leur temps dorénavant à copier, dans d'autres carnets, les carnets de Simone Veil, en vue de publications qui compléteraient celles de Gustave Thibon, ou bien celle d'Albert Camus. La mère de Simone Veil, Selma, qui dorénavant va signer la maman de Simone.
Il faut languir, attendre et regarder vainement. Nous regardons la porte. Elle est close, inébranlable. Nous y fixons nos yeux. Nous pleurons sous le tourment. Nous la voyons toujours. Le poids du temps nous accable. La porte est devant nous. Que nous sert-il de vouloir? Nous n'entrerons jamais. Nous sommes là de la voir. La porte, en s'ouvrant, laissa passer tant de silence.
Viendra le moment, disait Bernanos, où le désespoir sera tel que celui qui parlera d'espérance sera comme une flamèche lancée dans un baril de poudre. Les publications de Simone Veil auront de plus en plus d'écho les années passant. On en est à 17 volumes ou presque d'œuvres complètes publiées depuis sa disparition.
Simone Veil ne dira à personne ce qu'il doit faire dans telle ou telle circonstance. Mais Simone Veil exigera de chacun qui la lira vraiment qu'il se détache du slogan facile, de la communauté purement verbale, pour dépasser tout cela jusqu'à l'exigence ultime. Il faut qu'il sache finalement ce qu'il veut faire, lui, et au nom de quoi il veut le faire.
C'était une rediffusion d'un des premiers numéros d'Intelligence Service. C'était aussi un hommage à Joseph Pontus que nous avions enregistré à l'été 2020. On y entendait aussi Valérie Gérard, la lectrice Catherine Bussière à la technique et à la prise de son, Yann Frécy et Pauline Laverdure, les agents d'Intelligence Service, déjà en septembre 2020, Frédéric Martin et Franck Olivard, et la réalisation Audrey Ripouille. Tout de suite après le journal, Tanguy Pastureau et Alex Vizorek. Pastèque.